Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Le 17 avril, dans le cadre des conférences de l'association ABCDE, Jacques Fontaine, géographe, universitaire engagé, déjà intervenu dans nos émissions, faisait une intervention sur la situation en Ukraine à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Châtel. Retour sur l'événement avec Jacques Fontaine.
Vous écoutez Radio B,
la chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Bonjour Jacques.
Bonjour.
Jacques, en exergue de votre intervention, vous avez cité Antonio Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres.
Oui, je crois que c'est une des paroles les plus connues de Gramsci, qu'il a écrite dans les écrits de prison, alors qu'il était dans les geôles mussoliniennes, à une époque où l'affrontement entre, disons, les mouvements révolutionnaires et les mouvements progressistes, tout au moins c'est ce qui était cru par une grande partie de la population, et les mouvements fascistes augmentaient pour aboutir, 10 ans plus tard, à la Deuxième Guerre mondiale. Alors je ne prétends pas que nous soyons dans la même situation qu'en 1929, bien entendu. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que comme les mouvements fascistes avaient remis en cause un équilibre qui n'était pas satisfaisant d'après la Première Guerre mondiale, Poutine aujourd'hui se comporte comme ces mouvements fascistes et remet en cause les équilibres qui sont issus de la fin de la guerre froide et de l'éclatement du RSS. Ces équilibres qui ont été mis en place à la fin de la guerre froide étaient en défaveur de la Russie.
Ils étaient en défaveur de la Russie, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Dire que toute l'histoire que la Russie avait construite depuis, disons grosso modo, Pierre le Grand, il y a 300 ans, depuis le début du XVIIIe siècle, qui était marquée par une expansion vers le sud, vers l'est, une expansion tous azimuts, et qui avait fait de la Russie le quasi-égal à la période stalinienne des États-Unis, avec autant de bombes atomiques que les États-Unis, ou à peu près, et donc un moyen de quoi détruire plusieurs fois la Terre. Donc, cette expansion qui a duré pendant 2 siècles et demi, donc de 1700 jusqu'à 1950, grosso modo, et qui ensuite est restée stable pendant une quarantaine d'années, pour la première fois de son histoire, depuis 3 siècles, la Russie régresse. Le territoire qu'elle contrôle directement ou indirectement diminue. Si elle reste la deuxième puissance nucléaire mondiale, elle n'est plus la deuxième puissance économique comme elle l'a été. Il y a une régression et la Russie ne fait plus partie du cœur du système mondial actuel.
Et donc la Russie n'accepte pas une position de vassalité.
Je ne parlerai pas de position de vassalité. Je parlerai simplement d'une régression de sa position dans la hiérarchie mondiale. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la Russie soit vassale des États-Unis. Ce n'est pas vrai. Mais elle ne traite plus d'égal à égal comme elle le traitait pendant la période stalinienne jusqu'à Brejnev et même un peu au-delà.
Et donc Poutine évoque le retour de la grandeur russe dans ses revendications et l'affirmation de sa légitimité, enfin, de la Russie.
Absolument. C'est ce que Poutine fait. Or, du point de vue économique, la Russie n'est qu'une puissance moyenne, hein, au niveau de l'Espagne, ou à peu près. Hein. Loin derrière, évidemment, les États-Unis, la Chine, le Japon, loin derrière l'Allemagne, loin derrière le Royaume-Uni, loin derrière la France, du point de vue économique. Par contre, au niveau militaire, au niveau de l'armée classique, ça se discute. Elle prétend être la deuxième armée du monde au niveau de l'armement classique. En réalité, je pense qu'elle est plutôt la troisième, parce que la Chine, je pense, est supérieure. Mais au niveau nucléaire, elle reste la deuxième puissance nucléaire du monde. Et même malgré la destruction d'un certain nombre de bombes nucléaires, la Russie, comme les États-Unis, reste capable de supprimer la vie à la surface de notre planète bleue. Donc, cette dichotomie entre la puissance nucléaire, qui reste à un niveau très élevé, et la puissance économique, qui a vu une régression considérable de la Russie par rapport à l'URSS, pose problème à Poutine. Et Poutine voudrait redevenir l'égal. Et comme il considère que les Européens sont dans une phase historique régressive, il pense pouvoir se redévelopper et recréer un grand empire russe. La Russie reste un empire multiethnique, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais la Russie reste un empire, mais il veut devenir un empire encore plus puissant, comme il l'était à l'époque du tsar, comme il l'était à l'époque stalinienne. Et ça, évidemment, ça pose problème. En particulier, le gros problème pour Poutine, il y en a un tas de problèmes. Il y a la Géorgie, il y a les pays baltes, etc., etc.
Donc ça passe par des revendications territoriales sur les anciens territoires de l'URSS.
Absolument. Et anciens territoires de l'Empire tsariste.
Et les anciens territoires de l'Empire tsariste.
Mais il y a un gros problème, c'est l'Ukraine.
Le feu aux poudres a été mis il y a quelques années, avec la guerre du Donbass, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé.
Oh, le feu aux poudres a été mis, à mon avis, avant.
Bien avant.
Avec ce qu'il faut remonter à la deuxième guerre de Tchétchénie de 99, quand Poutine était le premier ministre de Yeltsin, je ne sais pas, et où il a eu cette phrase historique bien connue, s'il faut aller chercher les terroristes dans les chiottes, j'irai les chercher, ou quelque chose du genre. Hein. Mais à coup sûr, à la guerre contre la Géorgie de 2008. Hein. Et l'origine de cette guerre, c'est le fait que l'URSS et ensuite la Russie aient laissé des troupes dans des zones marginales de certains États nés de la scission, de la disparition de l'URSS, comme la Géorgie, comme la Moldavie, où il y a eu des indépendances de fait de territoires très peu peuplés parfois, hein, qui étaient peuplés par des populations qui ne correspondaient pas à la majorité de la population du nouvel État créé, et où la Russie a soutenu des indépendances d'États qui n'ont aucune capacité à être indépendants. Hein, l'Ossétie du Sud, qui a été à des points clés, en Géorgie, c'est la superficie de la moitié de département français, et c'est 50 000 habitants. Donc, on ne peut pas construire un État de 50 000 habitants, c'est une évidence. Donc, mais c'est des points, c'est des leviers sur lesquels la Russie s'appuie pour contester l'indépendance de ces nouveaux États.
Et donc, ça a été le cas du Donbass en 2015 ?
Alors, le cas de...
2014. Oui.
Le cas de la Russie, de l'Ukraine, évidemment plus difficile pour la Russie que celui de la Moldavie ou celui de la Géorgie. Parce que l'Ukraine, c'est 45 millions d'habitants. C'est le deuxième État d'Europe. L'Ukraine est plus vaste que la France, qui a une industrie, qui a une agriculture, et qui a, et ça c'est une chose que je pense Poutine n'a pas compris, ou n'a pas voulu comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sentiment national ukrainien extrêmement fort. Au-delà des divergences internes à ce pays, qui a ses divergences comme tout pays, bien entendu, le sentiment national ukrainien aujourd'hui...
Et dans le Donbass également.
Dans le Donbass, la situation est un peu différente, parce que vous avez... Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau ukrainien, au niveau linguistique, l'ukrainien est une langue différente du russe. Hein, comme le français est différent de l'espagnol. Les différences sont importantes. Ainsi que nous le rappelait hier soir une Ukrainienne que nous avons accueillie, enfin qui est venue assister à ma conférence. Donc, la différence linguistique est importante. Et en Ukraine, du fait de la russification menée par les tsars, en particulier au XIXe, et de la deuxième phase de russification menée par Staline à la fin des années 20 et dans les années 30, beaucoup de gens sont parfaitement bilingues. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de Français qui sont bilingues français-anglais, ce qui sont deux langues très éloignées. Le russe et l'ukrainien sont certes plus proches que le français et l'anglais, mais ce sont des langues différentes. Il faut bien insister là-dessus. Et le sentiment national ukrainien est extrêmement fort, y compris chez des russophones.
Hein. Et dans le Donbass également.
Mais si on... tout le monde a rigolé quand Zelensky a été élu.
Donc il y a eu guerre du Donbass avec une résolution par les accords de Minsk, déjà.
Oui, la résolution n'a pas été totale. Oui. Il y a eu un cessez-le-feu, et puis ensuite il y a eu un enfermement sur le cessez-le-feu, et les négociations n'ont jamais rien donné. Les Ukrainiens voulaient absolument récupérer le Donbass, et les Russes y étaient absolument opposés. Donc personne n'y a mis du sien pour trouver une solution. Alors la responsabilité des accords, des échecs de Minsk, elle est partagée, je dirais... pas à part égale, la part russe étant la responsabilité russe, à mon avis, plus importante que la responsabilité ukrainienne. Mais il y a aussi une responsabilité ukrainienne dans cet échec.
D'accord. Et donc là, vous avez parlé du président Zelensky, qui vient après d'autres présidents, après d'autres situations en Russie et en Ukraine, qu'on prenait au départ pour... on ne savait pas tellement bien le situer.
Zelensky était un homme de télévision, un humoriste, un comédien, et personne n'a pris au sérieux. Et Zelensky était au départ un ukrainophone, un russophone, pas un ukrainophone. Et il s'exprime plus mal en Ukraine, même s'il a fait des progrès, il s'exprime plus mal en ukrainien qu'en russe. Et c'est aujourd'hui, il est devenu le symbole de la résistance ukrainienne, alors que au départ, rien ne l'amenait à devenir ce chef de guerre, et un chef de guerre remarquable, il faut le dire, un chef de guerre remarquable qui est devenu, le symbole de son peuple face à la violence de Poutine, et de ces méthodes qui sont des méthodes de type totalitaire, héritées à la fois, à mon avis, du stalinisme et du fascisme. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de fasciste tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous pensez de Poutine quand il dit qu'il se bat contre des nazis, par exemple ?
C'est totalement faux. Dans tous les pays, et on peut le regretter, et moi, en tant que militant de gauche, je trouve, et antifasciste, etc., etc., je trouve que c'est absolument lamentable que des pays confient leur direction aujourd'hui à des néo-fascistes ou à des gens proches de l'extrême droite qui peuvent tenter des coups d'État, que ce soit Trump aux États-Unis ou que ce soit Orban en Hongrie. Hein. Mais c'est la fête, aujourd'hui, il y a partout des extrêmes droites. Hein. Que ce soit en France...
Et les Ukrainiens ont eu à payer...
Que ce soit en Ukraine, où il y a une extrême droite ukrainienne, et une extrême droite aussi en Russie. Parce qu'on parle beaucoup, par exemple, des milices du groupe Wagner. Les milices du groupe Wagner, elles sont... elles ont été fondées par un néo-nazi qui faisait de la publicité pour Mein Kampf.
Vous me disiez en antenne que les Ukrainiens avaient eu à payer un lourd tribut au nazisme.
Oui, au nazisme, mais aussi au stalinisme.
Et au stalinisme.
Il y a eu deux périodes absolument dramatiques. La première, c'est les années 31 à 33, où Staline récupère, entre guillemets, vole dans les fêtes, les récoltes de céréales en Ukraine, mais pas qu'en Ukraine, aussi dans le sud de la Russie, pour alimenter les villes et pour industrialiser le pays. Et en tout, c'est autour de 6 millions de morts, dont 4 millions en Ukraine. C'est ce qu'on appelle l'extermination par la faim, que les Ukrainiens qualifient de génocide. Et en ukrainien, c'est ce qu'on appelle l'Holodomor, Et c'est 4 millions de personnes sur un pays de moins de 40 millions d'habitants. Et ensuite, pendant la guerre contre le nazisme, où le rôle des Ukrainiens a été à la fois ambigu, mais le rôle des Russes aussi, puisqu'il y a eu des Ukrainiens et des Russes qui ont participé à l'expédition nazie, à la guerre nazie, et il y a eu des bataillons russes, des bataillons ukrainiens dans la Wehrmacht. Donc, à ce niveau-là, c'est assez bien partagé entre les deux. Mais le résultat, c'est que, avec en plus le judéocide par balle, où 1 million d'Ukrainiens environ ont été abattus d'une balle dans la tête par les nazis, la lutte, les restrictions où il y a eu des gens qui sont morts de faim en Ukraine, comme en Russie, hein, fait qu'il y a à peu près 8 millions d'Ukrainiens qui sont morts entre 41 et 45. Plus 4 millions entre 31 et 33, imaginez la saignée de ce peuple.
Donc, en tous les cas, ce peuple qui a beaucoup souffert, aujourd'hui se réveille comme un seul homme et résiste d'une façon donc imprévue par Poutine.
Tout à fait.
Qui n'a pas réussi son blitzkrieg.
Non. Tout le monde s'attendait, moi y compris, à deux choses. D'une part, que l'attaque se fasse sur Donbass, enfin tout le monde, pas les Américains. À ce niveau-là, ils ont été plus prévoyants que les Européens. Enfin, les États-Unis, plus précisément. Deux choses. Donc, tout le monde s'attendait à une attaque sur Donbass. Et c'est une attaque globale contre l'Ukraine, à partir de la Biélorussie, et surtout, évidemment, à partir de la Russie, que ce soit à partir de la Russie telle qu'elle est dans ses limites internationales, ou à partir de la Crimée, où la Russie avait concentré des troupes extrêmement importantes après avoir annexé la Crimée en 2014. Ça a été un échec. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, mais je ne suis pas spécialiste de cette région. Et ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, pour les Ukrainiens, la guerre a commencé en 2014. Et qu'elle n'a jamais cessé. Donc l'armée ukrainienne a eu le temps de se former. D'autre part, il est souvent plus facile pour une armée de défendre son territoire parce qu'il y a un sentiment patriotique. Et il faut insister sur l'importance du nationalisme ukrainien. Aujourd'hui, il y a une nation ukrainienne, comme il y a une nation française, qui est complètement différente de la nation russe. Et ça, je crois que c'est une chose que Poutine n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre.
Donc, révélation d'une nation ukrainienne, d'un sentiment national ukrainien très fort.
Oui.
Mais révélation peut-être aussi d'une Europe aujourd'hui qui est solidaire.
Oui. Et ça, c'est une très bonne chose parce que, vu les divergences qu'il y a à l'intérieur de l'Europe, les divergences politiques, et là, je crois qu'il faut reconnaître le rôle de la Pologne dans l'accueil des migrants ukrainiens. Il y a 5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays. Il y en a 7 autres millions qui ont quitté leur ville ou leur village et qui se sont réfugiés dans l'ouest de l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a un mouvement inverse qui s'amorce. Et donc, la Pologne a très bien accueilli et l'Europe a suivi cet accueil. Et c'est évidemment éminemment positif.
D'accord. Malheureusement, l'émission va bientôt se termine. Les Américains vont débloquer 33 milliards de dollars pour l'Ukraine. Comment voyez-vous cela? Est-ce que vous voyez cela comme un espoir de résolution de la crise ou au contraire, une aggravation possible?
C'est les deux à la fois, je dirais. Sans l'aide européenne et états-unienne, l'Ukraine à terme, aurait été vaincue. Et là, elle résiste. Elle vient de remporter plusieurs victoires. Elle a éloigné les troupes russes de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Elle a éliminé une brigade entière la semaine dernière qui tentait de percer sur le front du Donbass. Une brigade, c'est entre 5 à 6 000 hommes. Je n'ai pas dit qu'il y a eu 5 ou 6 000 morts. Il y a une brigade qui a été, une brigade motorisée de tanks qui a été détruite, donc prisonniers, blessés, morts, ça fait 5 à 6 000 personnes, c'est énorme. Mais à long terme, la bataille n'est pas jouée aujourd'hui. Et avec ce qu'a dit Et ce qu'a fait Biden, il veut régler ses comptes avec la Russie. Et en même temps, donc je pense qu'aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase de la guerre qui change un peu de nature. Non seulement c'est une guerre de libération de l'Ukraine, de l'armée russe, mais c'est aussi un règlement de compte entre les États-Unis et la Russie. Et l'Europe, il est au milieu entre les États-Unis et la Russie. Elle est, pardon, au milieu entre les États-Unis et la Russie. Donc ça tourne très mal. On est mal placé. Voilà une conclusion qui n'est pas très optimiste.
Merci de cette conclusion. Jacques, simplement pour ajouter, il y a une formidable solidarité en France et partout en Europe pour les Ukrainiens. Est-ce qu'on n'oublie pas aussi d'autres populations?
C'est une évidence. C'est une évidence. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes sont blancs, chrétiens, européens. C'est pas comme les Syriens, dont une partie est chrétienne, d'ailleurs, je le rappelle, mais c'est une minorité. C'est pas comme les Afghans ou comme les Africains. Et là, il y a effectivement une différenciation de type raciste entre les migrants, et c'est un scandale.
Merci Jacques Fontaine et pour cette intervention. Et amis auditeurs, je vous dis à la prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir.